Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous débuterons ce journal avec une polémique à Bruxelles sur la nouvelle appellation d'un poste à la Commission européenne aux questions migratoires. Ce poste s'intitule « Protection du mode de vie européen ». Le dirigeant de General Electric France est soupçonné de prise illégale d'intérêts. C'est un ancien conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy. Nous reviendrons sur cette affaire dans un instant. Et puis vous comprendrez pourquoi les journalistes du quotidien Le Monde s'inquiètent pour l'indépendance de leur métier. Ils ont quasiment tous signé hier une tribune. Climat, technologie, démographie. Voici les grands défis qu'aimerait relever la nouvelle présidente de la Commission européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen a présenté hier sa nouvelle équipe avec la Danoise Margrethe Vestager pour affronter les GAFA, les géants du numérique, le Néerlandais Frans Timmermans au front pour sauver le climat. La Française Sylvie Goulard, elle, s'est vue attribuer le portefeuille du marché intérieur. Cette équipe est saluée dans l'ensemble, mais il y a quelques bémols concernant notamment un nouveau poste, Johanna Hochstein.
Ursula von der Leyen se serait certainement passée de ce début de polémique. L'attribution d'un portefeuille sur les questions migratoires, intitulé « Protection du mode de vie européen », a fait bondir les eurodéputés de gauche, Raphaël Glucksmann, socialiste français.
C'est le retour, en fait, du ministère de l'identité nationale de Sarkozy à l'échelle européenne. C'est une capitulation en race campagne devant les populistes et les nationalistes qui gagnent du terrain en Europe. On ne traite pas des questions migratoires comme cela. Ursula von der Leyen a eu des mots plus humanistes devant le Parlement pour être adoubée. Eh bien, il va falloir revenir au discours originel, sinon ça ne passera pas.
La Française Sylvie Goulard pourrait, elle aussi, être égratignée lors de son audition devant le Parlement européen au sujet des soupçons d'emploi présumé fictif sur un de ses assistants quand elle était eurodéputée. Voilà pour les bémols. Pour les points positifs, les parlementaires saluent le respect de la parité homme-femme. Pour le Français de la liste Renaissance, Pascal Canfin, c'est une commission qui fait de l'écologie une priorité.
C'est la première fois que la Commission européenne aborde les sujets climatiques, notamment de manière totalement transversale. C'est-à-dire que le premier vice-président de la Commission européenne a en charge ce qu'on appelle ici le Green Deal, c'est-à-dire la transition écologique, et il a sous sa responsabilité le climat, mais aussi les transports, l'agriculture, les fonds structurels qui vont vers les pays d'Europe centrale. Donc il aura tous les leviers pour opérer vraiment la transition écologique dont on a besoin.
Prochaine étape donc, l'audition des candidats commissaires désignés devant le Parlement européen.
Donald Trump a brutalement mis fin aux fonctions de John Bolton hier à la Maison-Blanche, évoquant de multiples désaccords avec son désormais ancien conseiller à la sécurité nationale. John Bolton était partisan d'une ligne dure avec l'Iran et la Corée du Nord. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou souhaite annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée s'il remporte les élections législatives mardi prochain. Une promesse de campagne pour convaincre des voix à l'extrême droite. Le président palestinien Mahmoud Abbas a prévenu dans un communiqué en cas de mesure de ce type tous les accords de paix signés avec Israël et toutes les obligations qui en résultent, écrit-il, tout cela serait annulé. Séjour de Diada en Catalogne, de fête nationale où des milliers de personnes vont célébrer l'indépendance de la région, un processus d'indépendance qui cette année est au point mort. Les séparatistes attendent toujours le verdict du procès de 9 de leurs dirigeants. Ils sont emprisonnés depuis 2 ans pour avoir organisé un référendum sur l'indépendance. L'ambiance n'est donc pas totalement à la fête. Notre envoyée spéciale, Élise Delève, l'a constaté.
Au siège de l'association qui organise la manifestation, l'ANC, Maria porte fièrement son t-shirt bleu, couleur choisie cette année pour défiler.
Moi, je me sens très, très, très mal. On a des prisonniers politiques. On les a quittés tout, la maison, l'argent, tout. C'est un massacre, c'est une guerre contre la Catalogne. Et les Catalans, ils sont toujours debout.
Debout, mais peut-être moins nombreux qu'aux précédentes Diada. Elisenda Paluzzi, présidente de l'ANC, avoue que cette année, elle a du mal à mobiliser.
Le fait que ce soit la 8e manifestation monstre qu'on organise le 11 septembre et qu'évidemment, il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert de sortir chaque année dans les rues de Barcelone de façon massive si on n'a pas encore eu notre indépendance, si tout est si difficile. Cela a généré un peu de déception.
Au Parlement aussi, on prépare la Diada. Joseph Fornet, député indépendantiste proche des dirigeants emprisonnés, ira manifester. Il n'attend cependant rien de la justice espagnole, convaincu que ses collègues resteront en prison.
L'histoire nous démontre que la tendance de l'État espagnol est de punir, donner des leçons et humilier. C'est sûr, l'indépendantisme a commis des erreurs, mais l'État aussi fait une énorme erreur. Cela fait partie de sa culture. C'est le fait d'avoir amené un sujet politique, la volonté de reconnaissance des Catalans, sur le terrain judiciaire. Et cela ne résoudra pas le problème. Au contraire, le danger, c'est de l'aggraver.
Les indépendantistes n'accepteront qu'une décision, l'acquittement de tous les prévenus, ce qui est peu probable. La Diada n'a même pas encore commencé qu'ils promettent déjà de retourner dans la rue mi-octobre à l'annonce du verdict.
C'était Élise Delève, envoyée spéciale à Barcelone pour France Culture. La filiale française de General Electric était déjà sous le feu des critiques depuis l'annonce au printemps dernier de la suppression d'un millier d'emplois en France, dont 800 à Belfort. Eh bien, on a appris hier que la justice française avait par ailleurs ouvert une enquête sur le patron français de cette filiale. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêts, Corinne Audouin.
Entre 2014 et 2016, Hugues Bellet est conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, où il s'occupe des exportations. L'homme quitte ensuite Bercy pour entrer chez General Electric en novembre 2017. Il en est devenu, en mai dernier, le directeur général France. Ce transfert du public vers le privé avait à l'époque été validé par la commission de déontologie de la fonction publique, sous certaines réserves cependant. Mais en juin dernier, la députée Delphine Batho découvre que General Electric France a bénéficié en 2016 d'une aide publique à l'exportation, une garantie bancaire de 70 millions d'euros. Le dossier relevait des compétences de Hugues Bellet, conseiller export à Bercy. De quoi soupçonner une prise illégale d'intérêt, explique Delphine Batho.
Ça pose question, si vous voulez. Les membres de cabinet ministériel doivent défendre l'intérêt général. Quelqu'un qui supervise un dossier d'aide à une entreprise et puis qui, comme par magie, assez rapidement après avoir quitté ses fonctions de conseiller ministériel, se retrouve dans des responsabilités très importantes à General Electric, ça pose un problème évident.
Du côté de General Electric, on assure que ces accusations sont totalement infondées et que Hugues Bellet fournira aux enquêteurs tous les éléments permettant de réfuter ces allégations.
Aux urgences, les grévistes maintiennent la pression. Le collectif Interurgence, sceptique quant aux annonces du ministère, poursuit la grève et il évoque une journée de mobilisation prévue fin septembre. Ce mercredi, c'est la CGT qui appelle le personnel des urgences à se rassembler à Paris. La justice autorise la parution du livre de Tariq Ramadan aujourd'hui. L'une des femmes qui l'accuse de viol ne voulait pas que son nom apparaisse dans l'ouvrage, mais le tribunal a estimé que sa demande porterait atteinte, une atteinte excessive à la liberté d'expression de Tariq Ramadan. Le tribunal reconnaît toutefois que cette femme a subi un préjudice et condamne l'intellectuel musulman à lui verser 1 euro 5. 472 journalistes du journal Le Monde, soit la quasi-totalité de la rédaction, ont signé une tribune hier. Ils exigent de leur actionnaire la reconnaissance d'un droit d'agrément. Ce droit exceptionnel avait été consenti l'année dernière par le trio Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger. Il permettrait aux journalistes de choisir leur actionnaire majoritaire pour assurer la protection de leur indépendance éditoriale. Sauf que Mathieu Pigas et le nouvel actionnaire, le tchèque Daniel Kretinsky, rechignent à signer ce texte. De quoi inquiéter Paul Benkimou, il est spécialiste des questions de santé et de médecine au Monde. Il préside la Société des rédacteurs du Monde.
Lorsqu'en 2010, le groupe Le Monde a dû se tourner vers des investisseurs parce qu'il était dans une situation économique problématique, on a renoncé à une indépendance économique. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas se la dissimuler. Mais avec quelque chose qui était, entre guillemets, notre capital le plus précieux, qui était notre indépendance, avec une frontière qu'ils étaient d'accord pour respecter, et ils l'ont fait, qui était de dire « nous n'empiétons pas sur l'éditorial. Nous, nous restons simplement là pour que cette entreprise soit viable et fonctionne. » Donc, notre capacité à enquêter ou à écrire, y compris sur nos actionnaires, parce qu'il y a eu des révélations que le Monde a faites sur les Panama Papers et autres, etc., il y avait effectivement, il pouvait apparaître tel ou tel actionnaire qui était cité et on ne l'occultait pas. On a tenu à ce que le respect de notre indépendance soit constant et c'est ce qui s'est passé.
Mais aujourd'hui, justement, le danger, c'est quoi? C'est Kretinsky? C'est un peu le loup dans la bergerie, finalement?
Ce dont on a peur, c'est qu'il y ait des opérations de changement de contrôle, de changement de main qui nous échappent, sans lesquelles on aurait légalement, juridiquement, aucun recours. Il pourrait y avoir des menaces sur notre indépendance. on aimerait vraiment ne pas en arriver là.
C'était Paul Ben Ki-moon de la Société des rédacteurs du Monde, interrogé pour France Culture par Cécile de Kervas-Doué. Après le sud, c'est le nord de la France qui est touché par les averses. Elles vont tomber ce mercredi sur les Hauts-de-France, puis jusqu'à la Bretagne dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil est de retour, avec ce matin 14 degrés à Nantes, 17 à Paris, 19 à Lyon et 25 à Nice.